à tous. Trop lisse, trop neutre, le cinéma, c'était mieux avant. Du finissement à l'écran, des acteurs à la critique, dans Très cher cinéma français, un essai pamphlet. Il règle ses comptes avec le secteur. Le journaliste Éric Nehoff nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, lui ne semble pas avoir cessé d'y croire. Le réalisateur du Convoyeur avec Dupontel et de Cortex avec Dussolier retrouve le chemin des salles ce mercredi avec une adaptation du roman de Pierre Lemaitre, Trois jours et une vie, paru chez Albin Michel. Une disparition, un long silence et le prix de la culpabilité. Nicolas Boukrieff est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur le fil de vos podcasts.
La grande table. Olivia Gesbert.
Ce n'était pas son premier film, mais on l'a vraiment découvert avec Le Convoyeur en 2003. Transport de fonds, braquage, course-poursuite, derrière l'identité de la nouvelle recrue, Dupontel, Dujardin, grandiose. Puis Cortex, 2008, paranoïa ou réalité, policier retraité, André Dussolier est un flic retraité à la mémoire qui flanche, dans une clinique où rien ne se passe normalement. Un an plus tard, sort Gardien de l'ordre et une nouvelle enquête sur fond de trafic de drogue, puis Made in France, au cœur d'une cellule djihadiste, sortie prévue en novembre 2015, trop prémonitoire, sa sortie au cinéma est annulée. Cette fois, le réalisateur Nicolas Boukrieff retrouve l'écrivain Pierre Lemaitre en 99 dans un village des Ardennes belges.
Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, nous devons nous assurer que l'enfant ne s'est pas perdu. Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous.
Vous croyez à l'enlèvement, vous ? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense.
Personne ne sait où il est, je l'ai cherché partout.
T'inquiète pas, on va le retrouver.
C'est pas bien facile tout ça. Là, ça colle pas. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h15 et 10h?
Qu'est-ce qu'il y a, maman?
Les policiers sont venus à la boutique. S'il a rien à se reprocher, pourquoi il répond pas?
On ferait bien de le retrouver vite avant que tout ça nous pète à la gueule.
Vous et moi, nous avons un petit secret.
C'est une seule affaire, cette histoire.
Nicolas Boukrieff.
Bonjour.
C'est une sale affaire, cette histoire, dit une habitante de ce village du Nord, décor du drame. Difficile de lui donner tort, hein ?
Ah, clairement, oui. Mais avec Pierre Lemaitre, je dirais qu'on est assez cotillé du fait, j'ai l'impression.
Oui.
Parce que sa littérature est assez construite sur des sales affaires, pourrait-on dire, entre guillemets, je trouve.
Pas votre cinéma ?
Ça dépend des films. Je dirais que le précédent, La Confession, avec Romain Duris et Marine Wacht, c'était plutôt une belle affaire. Puis si on remonte un peu, Made in France était plutôt une très sale affaire de tout point de vue. Donc voilà, après, je ne veux pas remonter dans le temps, mais ça dépend des histoires.
Un cinéma noir, un cinéma polar qui vous convient quand même bien, un genre auquel vous vous êtes attaché ces dernières années. Ce n'est pas pour rien que Pierre Lemaitre vous a contacté, vous.
Je suppose. Ce qu'il m'a dit, en fait, qui m'a fait très plaisir, parce qu'on est beaucoup en France, on est ce qu'on a fait. Vous voyez, on vous contacte pour faire ce que vous avez déjà fait, en général. Et parfois, c'est un peu lourd comme proposition par rapport à ce qu'on a pu réaliser auparavant. Après Le Convoyeur, par exemple, on me proposait beaucoup de scénarios de braquage. Mais je venais d'en faire un, donc quel intérêt. Ce qui m'a beaucoup plu et touché dans ce qu'a dit Pierre quand il m'a contacté, il m'a dit « Je viens vous voir parce que vous faites du film noir plus que du polar et vous faites du film où les caractères entraîne l'action et pas l'inverse. C'est pas des films mécaniques de genre avec des personnages pantins, mais c'est tout à fait l'inverse. Et comme c'est effectivement ce que j'essaie de faire, en m'inscrivant, en essayant de m'inscrire dans une vraie tradition du cinéma français, où le film noir a été très longtemps un genre roi du cinéma français, chez Duvivier, chez Renoir, chez Clouzot, jusqu'à Claude Miller et Garde à vue, j'étais très heureux qu'il l'aborde sous cet angle, et ça m'a donné évidemment très très envie de lire son scénario.
Et alors ce film, pour vous, c'est une commande au sens noble du terme, et c'est une rencontre. Pierre Lemaitre vous écrit aussi après une projection de La Confession, votre précédent long, parce que vous écrivez tous vos films, je vous propose de réaliser un scénario que vous n'aurez pas écrit. Ce n'est pas un paradoxe ou ce n'en est qu'un en apparence, c'est parce que vous êtes un auteur que j'aimerais que vous acceptiez de vous emparer de ce récit. Ce film, c'est le résultat de la rencontre entre deux auteurs, réellement.
Absolument. D'ailleurs, quand on s'est proposé à l'avance sur recette, pour obtenir l'avance sur recette, que nous n'avons pas obtenu, ce qui n'est pas très surprenant non plus, mais toujours est-il que, on va présenter le film comme un film d'auteur avec un S. C'est possible. Et c'est vrai que l'univers de Pierre est un univers tellement structuré, tellement fort, tellement habité, tellement humain et émouvant, enfin en tout cas tel que je l'ai ressenti, puis je suis pas le seul, parce qu'il y a quand même des centaines de milliers de lecteurs qui pensent la même chose, que le compléter et l'amener à une traduction à l'image me demandait forcément de ne pas être juste un simple exécutant, parce que sinon le film aurait été plat, tout simplement. Donc et je pense que c'est pour ça qu'il est venu chercher. Donc investir cet univers par le mien propre, mais avec mon langage qui est celui de l'image, était une rencontre absolument passionnante. Et avec Pierre, je dois avouer que on a poussé assez loin la collaboration. C'est-à-dire que une fois que j'avais lu le scénario, j'avais demandé évidemment quelques changements, il y a des choses qui me paraissaient pas forcément jouables, qui ne me correspondaient pas vraiment, des choses qui me paraissaient à adapter, on va dire. Une fois que cette version avait été faite, j'aurais pu m'arrêter là, puis reprendre le scénario en main, ce que je fais à chaque fois sur mes propres histoires, j'écris jusqu'au tournage. Notamment, je fais ce que j'appelle une version de tournage. C'est quand on découvre les décors, évidemment, le scénario que vous avez rêvé ne correspond pas au décor que vous optionnez, parce que vous trouvez un décor qui vous paraît très beau. Puis évidemment, si c'est un appartement, là, vous aviez imaginé une cuisine en face du salon et les chambres au fond du couloir, et puis l'appartement que vous trouvez magnifique pour le film, eh ben il est disposé tout à fait différemment. Et à chaque fois, je réécris le scénario pour que les acteurs, quand ils arrivent le jour de tournage, ne soient pas perturbés, mais qui en lisant s'ils ont lu la dernière version, ce qui ne leur arrive pas toujours, ils puissent se retrouver, j'ai envie de dire, chez eux. Là, une fois qu'on avait trouvé le village qui sert de décor à ce film, ce très beau village dans les Ardennes belges, je me suis dit, mais pourquoi j'entraînerais pas Pierre et Perrine Margaine, la scénariste, sur place? Pourquoi je le ferais tout seul? Après tout, c'est son univers. Pourquoi j'ai envie de dire, j'exploiterais pas au maximum, mais c'était fait de façon beaucoup moins cynique, ce monde qui est le sien et poursuivre l'échange. Donc, on s'est retrouvé une semaine dans ce village. Je lui dis, regarde, l'église n'est pas là où elle est dans le scénario, qu'est-ce qu'on peut en faire? Tiens, regarde, il y a un train, une petite Micheline qui passe au milieu de ce village, c'est dommage de ne pas l'exploiter. Et on a comme ça réécrit in situ le scénario. Puis après, arrive le moment du casting et je me suis dit la même chose. Je me suis dit, c'est quand même ses personnages, il a quand même écrit un roman avec ses personnages en tête, il a écrit le scénario de ce roman avec ses personnages en tête. Ça sera un peu trivial de ne pas le concerner, de lui dire, bah, tiens, tel personnage va être joué par tel acteur, en point c'est tout. Je trouvais ça pas très élégant. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'échangerait pas à ce propos-là? Donc, on a commencé à évoquer des noms. Alors, pour tel personnage, je lui disais, tiens, j'ai pensé à tel acteur. Il me disait, ah non, je voyais pas du tout le personnage comme ça. Bon, d'accord, tu voyais qui? Moi, je vois lui. Ah non, c'est pas du tout un acteur avec qui je sens que je vais être à l'aise pour travailler. Et peu à peu, comme ça, on a évoqué le casting. Sandrine Bonner s'est imposée tout de suite. Pablo Poli aussi. Mais par exemple, lui m'avait proposé Philippe Torreton pour jouer le rôle de l'ouvrier. Et j'ai dit, j'adorais travailler avec Philippe Torreton, mais Philippe Torreton dans le rôle d'un ouvrier fort en gueule, on l'a déjà vu. Peut-être qu'on peut lui donner le rôle de l'intellectuel. Ah oui, quelle bonne idée. Et avec la production et Pierre, on a construit ainsi le casting. Et puis bon, ben là, c'était le moment où il fallait s'arrêter, parce qu'on a s'approché de la préparation et du tournage. Et là, ça devenait exclusivement mon affaire, même si Pierre était invité autant qu'il le voulait sur le plateau. Et voilà, et après, je lui montrais le film en montage, une version sur laquelle il a réagi, voilà.
Il n'aurait pas été d'accord avec quelque chose, vous l'auriez suivi?
Pas sur l'affaire du tournage. Sur l'affaire du tournage, par exemple, il l'avait très bien compris. C'est quelqu'un de magnifiquement intelligent, donc il savait très bien. Le premier jour, il s'est mis à discuter avec un acteur, ce que je pouvais comprendre. Je lui dis non, et, s'il te plaît, ne parle pas avec les acteurs sur le tournage, parce que on peut pas être deux à leur donner des indications, ça va être un cauchemar. Surtout, tu viens une journée, tu repars pour 10 jours, ça n'a pas de sens. Donc, tout dépend de ce qu'il aurait pu dire, mais sur ce qui était le corps du récit, je n'avais qu'une obsession, en fait. J'ai considéré que c'était un cadeau de me proposer une histoire. Je trouve cette histoire magnifique. Hein. Je trouve que c'est vraiment, je le dis d'autant plus que je ne l'ai pas écrite. Je trouve que c'est une histoire extraordinaire en roman et pour le cinéma. Et j'avais qu'une obsession, c'est qu'il ne se sente pas trahi à la fin. Parce qu'on dit adaptation égale trahison, mais c'est pas forcément vrai. Si on prend les films adaptés de Stephen King, je veux dire, à part Shining ou Kubrick et King, mais parce que ce sont deux génies, on finit par se disputer. Carrie, qui est un grand film de De Palma, est aussi une très belle adaptation de King.
Et vous êtes un sacré directeur d'acteur, Nicolas Boukrieff. Si on prend le rôle de Charles Berling, qui pour moi incarne plutôt un titi parisien dans la vie, les premières minutes en ouvrier, en père ouvrier d'une usine qui s'apprête à être reprise et lui probablement à être licencié. J'ai du mal à y croire les premières minutes. Et puis après, c'est fantastique, ça prend complètement. André Dussolier pour Cortex, Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz pour Le Plaisir et ses petits tracas, Jean Dujardin et Albert Dupontel dans Le Convoyeur, etc., etc. Cette fois, dans Trois jours et une vie, il y a Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Charles Berling. Vous, vous régalez dans vos choix de casting. Une fois, vous avez même dit que l'acteur, pour vous, incarne le film. Ça veut dire que pendant le tournage, le film, pour vous, continue à s'écrire sous l'impulsion du metteur en scène, mais aussi par le jeu des acteurs.
Absolument. C'est pour ça, par exemple, je ne fais jamais de storyboard. Je trouve que le storyboard, des grands films peuvent être storyboardés, mais ça veut dire qu'on tourne comme si on faisait une bande dessinée. Si vous demandez à un acteur d'aller à droite dans la scène alors qu'il a toujours pensé, lui, que le personnage naturellement irait à gauche, vous allez ramer. Enfin, tel que je pratique les choses. Et je trouve qu'on construit un personnage avec les acteurs. Et je rentre, quand on rentre dans cette démarche-là, on arrive à des résultats heureux. Sur les tournages, je sais que jusqu'à la preuve du contraire, je me suis jamais disputé avec un acteur et on termine toujours les films avec on a l'impression d'avoir vraiment collaboré ensemble au maximum. On parlait de Sandrine Bonnaire par exemple, je dois le dire, est l'actrice la plus juste avec qui j'ai jamais travaillé. C'est-à-dire qu'elle arrive, vous n'avez pas... Déjà, je n'aime pas le mot direction d'acteur. Je trouve que c'est un côté trop dictatorial. Je préfère dire orientation d'acteur. C'est-à-dire que l'acteur, vous lui livrez le rôle, il va le remplir de sa propre personnalité. Et à partir de là, vous allez dire, ah, là, il le fait un peu trop comme ci, donc peut-être tu pourrais aller un petit peu plus vers l'ouest. Et ainsi, ça marche très bien. Pablo Poli, par exemple, qui est magnifique, on avait vu dans Patient, le film du Grand Corps Malade, a donné du personnage une version beaucoup moins neurasthénique que ce que j'imaginais. Je pensais que le personnage était plus sombre, plus neurasthénique, et lui a amené une fraîcheur et une vivacité d'esprit qui est la sienne, qui enrichit incroyablement ce personnage et rend assez délicieux les scènes avec lui, par exemple. Voilà.
On entre dans le film, Nicolas Boukrieff, sans tout révéler pour autant. On a l'impression que la vérité est là, toute proche. Il n'y a qu'à tendre la main. On l'entendait, cette phrase, dans la bande-annonce de Trois jours et une vie. Et elle est là, effectivement, la vérité, elle n'est pas loin. La question n'est pas de savoir qui a tué l'enfant. Ça, on l'apprend, nous, spectateurs, dès le début du film. On l'apprend vraiment au moment où le drame arrive. Mais si son auteur va ou avouer, ou être démasqué, ou être dénoncé. Les événements se déroulent sur trois jours, mais en réalité, le drame se noue en une poignée de secondes, quand le jeune Antoine décide de cacher le corps du petit Rémi qu'il a tué accidentellement. Pourquoi, d'après vous, il le cache, ce corps, lui, l'enfant modèle? C'est quoi? C'est la peur du regard des autres, la peur de faire de la peine à sa mère, la peur...
Absolument. Je pense que c'est avant tout la peur de faire de la peine à sa mère. C'est un petit garçon très introverti. On voit bien au début du film, et qui est un peu... qui est très à part. Moi, je le perçois comme un petit nerd, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un garçon d'une dizaine d'années qui a pour copain un chien, un enfant de 5 ans, avec lequel il joue à la bataille. Alors que les autres enfants du village, on les voit jouer au football. Donc, il est déjà très à part. Il a un problème. Et quand survient le drame, je pense que... je me suis toujours dit, c'est exactement comme quand on était enfant, on a tous vécu ça. Je sais pas, on fait une tache sur le mur... et au lieu d'attendre que nos parents rentrent pour leur dire, en disant je vais la nettoyer, puis on prend une éponge et on veut nettoyer la tâche, et elle s'agrandit. Et ce qui était une petite erreur devient une énorme bêtise. Et ben tout le film était construit comme ça, c'est ce qui m'a passionné. C'est que ce petit garçon fait une erreur et cette erreur déclenche les voisins, le petit village, la police, les médias, et il est pris dans un engrenage. On ne peut que le comprendre parce qu'on a tous été enfants. Et ce que j'ai adoré...
Vous vous êtes mis à sa place, justement. Vous vous êtes demandé ce que vous auriez fait.
Complètement. C'est-à-dire que c'est par empathie, en général, qu'on construit les histoires. Et je me suis dit, mais c'est l'histoire d'un innocent coupable. Ou d'un coupable innocent, ce film. Et je trouvais ça assez rare et assez merveilleux de pouvoir raconter ça. C'est-à-dire de pouvoir faire un film où il n'y a pas de méchant. Mais il y a quand même un drame et un crime. Et ça, je trouve, c'est toute la force de Pierre, hein, grâce lui soit rendue sur cette intuition géniale qui est de faire, de raconter cette histoire qui est faite à base d'archétypes assez inédits dans le cinéma français, je trouve, où on a tendance à faire un cinéma. Aujourd'hui, surtout dans le polar, on fait un cinéma qui est parfois, je dirais, un peu bourrin, si vous me passez l'expression. Vous voyez, il y a des méchants, un peu lourds, des gentils, des flics, des méchants de banlieue, dealers, j'en sais rien. Là, c'est ce petit village de province. Il y a dans cette histoire histoire, quand je l'ai lue, je me suis dit, il y a un éternel du cinéma français. C'est-à-dire, j'ai retrouvé ce qu'il y a dans le Corbeau de Clouseau, ce qu'il y a dans le Boucher de Chabrol. J'ai retrouvé cette base de ce cinéma français qu'on a pratiqué de films de village, beaucoup après-guerre. Parce qu'après-guerre, je pense que la France avait les auteurs avaient beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'était passé en province, sur la culpabilité, sur les mauvaises consciences. Et donc, pratiquer beaucoup ce cinéma de village, j'ai envie de dire. C'est une chose qui s'est perdue. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est merveilleux, j'ai droit, je peux illustrer ce genre.
L'homme en tête à tête avec son destin, qui est, je pense, le ressort suprême du roman. Ça, c'est le belge Georges Simenon, auquel le roman de Pierre Lemaitre rendait déjà quelques hommages appuyés, qui le dit. On se dit que ce qui vaut pour la littérature vaut aussi pour le cinéma, pour votre cinéma, en tout cas Nicolas Boukrieff. Et comme Simenon nous a quittés il y a 30 ans exactement, double dose, on l'écoute.
Je prétends que le roman a, ou devrait, remplacer la tragédie qui n'existe plus, ou à peu près, enfin on n'en écrit plus. Il y a longtemps qu'on n'écrit plus de tragédie. Or, pour remplacer la tragédie, il y a le roman. Or, qu'est-ce que la tragédie? C'est prendre des individus aux prises avec leur passion et les mener jusqu'au bout. D'ailleurs, la tragédie finit en général par la mort de la plupart des personnages. C'est-à-dire, c'est une crise. Eh bien, je prends n'importe qui comme personnage du début. Et la question que je me pose avant de commencer le premier chapitre, c'est qu'est-ce qui pourrait lui arriver qui l'oblige à aller jusqu'au bout de lui-même? Parce que nous tous, nous sommes capables d'être des assassins, d'être n'importe quoi, ou des saints. Mais nous n'allons pas jusqu'au bout de nous-mêmes, soit par lâcheté, soit par convention, soit par éducation, soit parce que nous n'en avons pas l'occasion. Eh bien, dans le roman, j'ai essayé d'imiter la tragédie, si je puis dire, de prendre n'importe quel homme, et de trouver le petit événement, le petit caillou sur lequel il va buter, et qui l'emmène ailleurs.
Prendre des individus aux prises avec leurs passions et les mener jusqu'au bout d'eux-mêmes, nous dit Georges Simenon. Vous avez, vous aussi, essayé d'imiter la tragédie, Nicolas Boukrieff, dans ce sens-là, en tout cas?
Oui, enfin, j'ai essayé de prendre le relais de ce que Pierre avait fait lui-même dans son roman, qui est effectivement sur une base de tragédie. C'est incroyable comment les propos de Simenon, vous avez magnifiquement choisi, parce qu'ils pourraient parfaitement illustrer l'aventure du personnage de ce film et du roman qui le précède. C'est très très juste. C'est Simenon, en plus, c'est ce qui nous a paru cohérent quand on a choisi les Ardennes belges, pour des raisons à la fois de production et graphique. On s'est dit, mais oui, comme on est sur un hommage à Simenon, ça devient très cohérent même d'aller de l'autre côté de la frontière, à 10 km seulement, de l'autre côté de la frontière pour illustrer ce film.
C'est une double difficulté d'ailleurs pour vous, adapter à la fois une œuvre littéraire et cette idée du thriller plutôt psychologique. Comment est-ce qu'on filme le poids de la faute et la culpabilité, ces sentiments qui sont quand même par essence très enfouis?
Ben déjà en chargeant les acteurs, pour que les acteurs soient investis de cette émotion, ça c'est une des premières choses, partir de l'acteur. Et ensuite, ce qui est de formidable et très intéressant dans ce genre d'histoire, c'est que vous travaillez sur le hors-champ. Les meilleurs films, je pense, sont faits à partir de hors-champ. Non pas tant ce qu'on voit que ce qu'on ne voit pas. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur un scénario où le hors-champ est une donnée permanente. Par exemple, le village que nous avons choisi est entouré de forêts. Or, c'est dans la forêt qu'a eu lieu le crime. Donc, à partir de là, chaque fois qu'on sent cette forêt, inconsciemment, la notion de crime est prégnante dans les images. Donc ça, c'était pour jouer de cette chose-là, c'était vous êtes obligé de visualiser, en fait. La culpabilité est une chose que, si vous ne voulez pas l'illustrer de façon psychologique et du dialogue, vous êtes obligé de la visualiser, précisément par l'hors-champ ou des petits objets fétiches, vous voyez, qui appartiennent, qui rappellent sans cesse le drame.
Vous êtes un être culpabilisant, vous, Nicolas Boukrieff?
Raisonnablement, comme toute personne vivant en France de tradition judéo-chrétienne, j'ai envie de dire.
Ouais. Et à propos de tradition judéo-chrétienne, l'église que vous évoquiez tout à l'heure, elle est bel et bien au milieu du village, hein, cette fois encore. Les habitants communient lors de la messe de minuit. La faute d'Antoine devient péché originel. La tempête est une forme de réprobation divine, ou au contraire, à chacun de l'interpréter. Il est beaucoup question de compassion, de pardon, jusqu'au médecin qui dit à Antoine, je ne te juge pas, Antoine, ne me juge pas toi non plus. Dans cette histoire, chacun fait comme il peut. Il y a cette influence-là aussi qu'il faut souligner dans l'histoire pour vous?
Oui, je pense que Pierre, Lemaitre, qui est, je crois, très, enfin, qui se prétend farouchement athée, est traversé de beaucoup plus de contradictions qu'on ne le pense sur ces matières. Mais ça, je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas parlé avec lui, donc je ne voudrais pas d'un coup me répondre sur les ondes en disant que c'est un croyant contrarié. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a parlé. Et comme moi, mon propre travail précédemment avec Made in France sur le djihadisme, puis après avec la confession sur d'après Béatrice Beck, d'après Lamorin Prêtre, j'étais un peu dans ce genre de réflexion. Ça rejoint assez facilement mon travail, ça.
Peut-être qu'en fait, il n'attendait qu'une chose, Pierre Lemaitre, c'était d'être démasqué sur ce point-là aussi, hein, comme son personnage pourrait être libéré de...
Peut-être, il faudra le creuser, cette question.
Bon, merci d'avoir tendu cette perche. En tout cas, il est midi 21 sur France Culture. On est avec le réalisateur Nicolas Boukrieff.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Vous êtes un grand cinéphile, Nicolas Boukrieff, en plus d'être un réalisateur aujourd'hui. Vous avez raconté le cinéma avant d'en faire. Vous avez co-créé un magazine, Starfix, spécialisé dans le cinéma fantastique et d'horreur. Vous avez vous-même animé le journal du cinéma et Mon Ciné Club diffusé sur Canal. Et aujourd'hui, vous publiez avec Lydia Boukrieff 100 grands films pour les enfants de Max Linder à la Tortue Rouge. C'est aux éditions Grunt avec Arte Éditions. Dans ce livre qui évoque aussi en grande partie vos coups de cœur, vous écrivez qu'il n'y a pas un cinéma du passé et un cinéma du présent, il y a seulement les films qui ont une personnalité et ceux qui n'en ont pas, que le vrai cinéphile est toujours curieux. Vous êtes toujours et encore curieux de tous les films, vous, Nicolas Boukrieff ?
Ah, totalement, oui, bien sûr. Je passe ma vie à regarder des films, ça m'a pris à l'adolescence et j'en ai fait mon métier, ma vie, et j'ai épousé une femme qui est aussi cinéphile que moi, parce que je dois avouer que auparavant ma vie affective était systématiquement brisée par cette passion. Donc j'ai épousé la monteuse de mes films avec laquelle nous éclatons à voir énormément de films et essayer de rendre ça utile à la fois dans notre travail, dans le livre qu'on a publié, quoi.
Alors dans 3 jours et une vie, c'est un enfant et sa culpabilité, son péché originel qui est mis en scène. Est-ce que pour vous, le cinéma aussi, cette passion du cinéma remonte à l'enfance? On va écouter les mots de François Truffaut à ce sujet. Truffaut qui est présent dans votre livre pour et par son film L'argent de poche, sorti en 76.
François Truffaut, vous avez dit une fois, j'étais un enfant qu'on laissait dans un coin et qui rêvait. Je le suis resté.
Oui, c'est vrai. Je crois que certainement, ce qui attire certains garçons vers le cinéma, c'est un besoin d'évasion absolue. C'est parce que la littérature est une bonne évasion, mais le cinéma est une évasion encore plus forte. Et j'ai l'impression que j'ai commencé très tôt à m'évader dans les films. Et puis finalement, on porte ce monde-là avec soi. Alors souvent, on m'identifie à mes camarades des Cahiers du cinéma, Rivette, Chabrol, Godard, etc. Et en fait, je me sens plus proche d'une autre famille qu'on n'a jamais définie, qui comprend Philippe de Broca ou Jacques Demy. Et je crois que nous avons ce point commun de faire du cinéma pour prolonger justement une enfance comme ça, solitaire. Parce que faire un film, c'est merveilleux de ce point de vue-là. Orson Welles a dit que c'est le plus beau jouet électrique du monde, mais c'est vrai, c'est une façon de refaire un monde à son idée. Pas forcément tel que l'on voudrait qu'il soit, mais en mélangeant ce qu'on pense qu'il est, ce qu'on voudrait qu'il soit, en prolongeant ce monde de l'enfance.
Je ne sais pas si vous étiez, vous, un enfant solitaire, Nicolas Boukrieff, mais il y a cette idée de recomposer ce monde-là aussi.
Oui, c'est amusant d'ailleurs, parce qu'il cite Philippe de Broca et il cite Jacques Demy, qui sont tous les deux cités dans ce livre. Jacques Demy pour Podane et Philippe de Broca pour L'Homme de Rio. Donc il se fait une parenté qui est assez réelle, qui est quels sont les films susceptibles de séduire nos enfants. Et il y a d'autres types de films qui sont plutôt destinés aux adolescents. Et dans mes amis cinéastes, et j'en ai beaucoup, je fais bien cette part des choses. Je me dis, tiens, il y en a certains qui essayent de refaire le cinéma qu'ils ont vu enfant, de faire ressentir les émotions qu'ils ont eues enfant, alors que d'autres sont davantage tournés vers les émotions qu'ils ont ressenties adolescents. Et c'est pas tout à fait les mêmes.
Il y a des films qu'on peut montrer aux enfants qui évoquent ces blessures de l'enfance. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément surprotéger les imaginaires en montrant que des films où tout se passe bien.
Excuse-moi, je vous coupe, j'avais compris votre question. Pardon. Non mais je suis assez bavard, désolé. Non mais en fait, le livre est parti de constat de s'apercevoir que aujourd'hui, ce que regardent les enfants est très très formaté, voire c'est de la bouillie, et qu'il y avait peut-être à raconter l'histoire du cinéma aux enfants d'une autre façon, non pas académique, mais à partir de ce que nous avons montré à nos enfants, ben donc les blessures de l'enfance, par exemple, l'enfance nue de Piala est un film qui, contre toute attente, peut bouleverser d'une façon très saine des enfants de 6-7 ans.
Voilà, sur les enfants abandonnés de l'assistance publique.
Absolument. Ouais. C'est un film qui est dénué de violence quasiment et qui touche énormément les enfants. Où est la maison de mon ami, de Kiarostami, est un film qui peut aussi vraiment toucher les enfants. Donc il y a vraiment moyen de montrer aux enfants des films dignes, j'ai envie de dire, et beaucoup plus puissants pour eux et moins dangereux et malsains que beaucoup des images qu'ils consomment régulièrement.
Est-ce que c'est aussi une manière de dire aux parents, il faut amener les enfants vers un peu autre chose que ce que Disney leur propose aujourd'hui? Parce que c'est aussi ce qui est en train de se jouer en termes d'accessibilité. On a une plateforme de streaming, celle de Disney, qui va débuter en novembre aux États-Unis, qui devrait arriver début 2020 en France, qui veut concurrencer Netflix. J'imagine que vous suivez d'assez près aussi toutes ces mutations-là. Les films produits par Disney, Pixar, il y a quand même des bons films aussi dedans.
Bien sûr, il y a des très bons films produits par Disney, Pixar, il y a des grands classiques, mais Disney, les films Disney, les films Pixar, tous les films de Marvel, ils viennent de racheter la Fox, c'est-à-dire qu'ils ont Avatar, les Simpsons, enfin je veux dire que ça ne s'est jamais vu, 80% de ce que consomment les enfants aujourd'hui, c'est du Disney. Donc on a écrit ce livre aussi pour ça, pour dire, attendez, il y a des films tchèques, des films africains, des films japonais, des films chinois, des films yougoslaves, des années 40, 50, 60, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a dedans un film Pixar, évidemment, qui ouvre plus l'imaginaire des enfants que ce que Disney est en train de préparer. Enfin, je veux dire, si tout l'empire Disney décide demain de faire des films qui sont un peu ceci ou un peu contre cela, ça sera une orientation très discrète, et nos enfants vont se retrouver à consommer en permanence cette même idéologie. Il y a que
une idéologie. Elle est beaucoup plus homogène qu'elle en a l'air.
Elle est inconsciente.
Elle est beaucoup plus formatée.
Je ne sais pas.
Cette production Disney, Pixar & Co.
Pardon. Je ne sais pas si elle est consciente ou pas, mais quand Toy Story 4 se termine sur des personnages qui disent, ça y est, on va pouvoir vivre et s'éclater, et ils sont, les petits jouets, se libérant des humains, se retrouvent dans un grand parc d'attractions. Moi, je trouve que ça me fait un peu froid dans le dos comme fin de film, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, il y a quand même Blanche-Neige hein, de Disney dans
oui,
dans
non, parce qu'il y a Blanche-Neige, il y a Livre de la Jungle, il y a Ratatouille de Pixar. Non, il ne s'agit pas de dire que Disney n'a pas fait des chefs-d'œuvre.
Non, 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 c'est voir ce que vous aviez sélectionné. Mais oui. Évidemment, c'est pas tous les films ou les 200 films présents ne sont pas de Disney. Juste un mot d'un que vous avez choisi et sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le petit hérisson, le hérisson dans le brouillard. Pourquoi ce film de Nordstein?
Le hérisson dans le brouillard, parce que c'est un film qui a été. Quand il est apparu sur les écrans en 80, il est devenu incroyablement connu. Et là, il a totalement disparu. Comme beaucoup de films aujourd'hui, où la cinéphilie devient rare. Le hérisson dans le brouillard, ça dure 11 minutes. Ça se trouve en un clic sur Internet. Ça se trouve sur YouTube en VF, parce que ça se trouve aussi en DVD.
C'est important que ce soit accessible.
Ah, ouais. C'était très important. Et je conseille à tous les parents, et voire aux adultes, même sans enfants, de regarder ce soir le hérisson dans le brouillard avant de s'endormir. Ils font des très beaux rêves.
Merci beaucoup à vous, Nicolas Boukrieff. 3 jours et une vie, adaptation du livre-roman de Pierre Lemaitre. Votre film à vous est en salle mercredi. Merci d'être passé autour.
Merci beaucoup à vous
de m'avoir accueilli.